Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall et je vous accueille à l'émission d'après-course dans le cadre du Grand Prix des Pays-Bas disputé sur le circuit de Zandvoort, où c'était orange pas mal partout. Malheureusement, j'ai pas mangé d'orange, donc ça tombe mal. Donc, et j'accueille avec moi revenant de la balle qui était là cette année pour la balado. C'est un des modérateurs de la monoplace, François Carignan. Salut François.
Salut Abdou, ça va?
Oui, ça va bien. Toi?
Ouais, ça. Quand même un réveil un peu dur si on veut quand on regarde cette course qui est un petit peu rocambolesque, mais oui, ça va bien.
Oui, exactement. Hein. Je m'attendais à ce que ce soit une course un peu plate, mais...
Oh, c'était parti pour ça.
c'était parti pour ça, mais disons que Yuki Tsunoda et Valtteri Bottas, leur abandon, en fait, on se met un peu le chaos. Donc, ça a été quelque chose. D'ailleurs, je vais vous donner le résultat de ce Grand Prix des Pays-Bas. Il va sans dire que, évidemment, à tout seigneur, tout honneur, Max Verstappen a remporté son Grand Prix à domicile, quoi qu'il en a trois techniquement, entre guillemets, avec Autriche et la Belgique. Il roule avec la nationalité néerlandaise, devrais-je dire. Donc, c'est une victoire à domicile.
Oui.
En fait, c'est une deuxième victoire à domicile pour Verstappen cette saison.
Il se sent à domicile à plusieurs circuits avec tous ces, avec l'armée orange, la Orange Army. Là, disons que en effet, là, c'est il y a plusieurs courses à domicile pour lui.
Exactement. C'est vraiment fou là. C'est vraiment fou la vague orange qu'il y a sur les circuits de Formule 1. Donc, et là, cette fois-ci, à Zandvoort, c'était quelque chose. Donc, deuxième, George Russell qui inscrit son meilleur résultat en carrière avec cette deuxième place. Charles Leclerc sur Ferrari est troisième. Lewis Hamilton, quatrième. Sergio Perez, cinquième. Fernando Alonso, sixième. Lando Norris, septième. Carlos Sainz a franchi la ligne d'arrivée en cinquième place, mais en raison d'une pénalité de 5 secondes pour sortie aux plus dangereuses, termine huitième. Esteban Ocon, neuvième. Et Lance Stroll complète le top 10 avec le dernier point disponible. Et Verstappen a obtenu le meilleur point, le point boni pour le meilleur tour en course. Et on a perdu Valtteri Bottas et Yuki Tsunoda. Alors, François, oui, vas-y, tu voulais ajouter quelque chose?
Non, je ne faisais qu'affirmer tes dires.
Ah, OK, super. Et d'ailleurs, je vais te laisser la parole puisque c'est l'heure des évaluations post-Grand Prix. Donc, quelles ont été ta performance au top, contre-performance et moment cocasse?
Bon, à tout seigneur, tout honneur, Max Verstappen, là, je pense que quand t'es presque sans reproche comme ça, là, mais en fait, disons qu'il y a eu... une autre course là, qu'on pourrait lui donner un A, sinon un A+. Mm-hmm. George Russell, je trouve que c'est très bien aussi. C'est sûr qu'il y a eu, l'avantage, si on veut, des stratégies qui lui ont donné un certain levier, si on veut, sur Leclerc et Hamilton. Hamilton, je lui donnais un A+, jusqu'à ce que Mercedes décide de le mettre dans une situation très peu confortable.
Ouais.
Sa réaction, encore une fois, Lewis Hamilton, c'est ça, hein, c'est un pilote extraordinaire, mais des fois, je dis pas qu'il est le seul à faire ça, OK? Mais je trouve que quand il réalise qu'il y a une erreur qui a été faite, il est très rapide à jeter le blâme sur son équipe. Tandis que d'autres pilotes vont souvent dire écoute, parle-moi pas, on n'en parle plus, on en parle après, on en parle dans le débrief. Lewis Hamilton est souvent le premier à jeter le blâme sur la radio, ce que j'ai trouvé un peu dommage parce que c'est un champion, c'est un des meilleurs pilotes de tous les temps, là, parce que certainement notre génération. Puis c'est pas exactement le genre de choses que j'apprécie de voir d'un champion. Sergio Perez complètement invisible. Il a été sur le cruise control presque toute la course. Fernando Alonso, si je ne me trompe pas, il était parti quoi? Il était parti sixième ligne?
Ouais, treizième, parti treizième.
Ouais, finir sixième, c'est très, très bon. Donc, moi, je lui donnerais une très bonne note ici. Lando Norris, en fait, bon, termine, si on veut, là, derrière ceux qui ne pouvaient pas battre, plus Alonso. Donc, c'est dur de lui donner une mauvaise note. Carlos Sainz, la moitié va à lui, la moitié va à l'écurie. Honnêtement, c'est terrible à quel point Ferrari l'a complètement massacré dans cette course. Unsafe release. Probablement qu'il... En tout cas, il n'y a rien d'officiel, mais il pourrait avoir une pénalité pour... avoir laissé le wheel gun, là, je sais pas le terme en français, traîner, puis là, Sergio Perez même a roulé dessus parce qu'il était dans une position dangereuse. On sait pas si jamais ça va être une amende à Ferrari ou quoi que ce soit, mais bon, c'est vraiment là tout ce qui pouvait mal aller pour Carlos Sainz a mal été, un arrêt de 12 secondes et demie. Ou que le pneu était même pas prêt, ça c'était typiquement Ferrari, tu vois ça, tu te dis ouais. There you go. Et on se disait que c'était le pire moment de la course, mais non. Ils ont réussi quand même à surpasser plus tard. Ocon, ça s'est bien passé. Je trouve qu'il y a eu une course un peu, pas pour dire invisible, mais il a été efficace, il a été bien efficace. Mm-hmm. Lance Stroll, c'est bien aller chercher un point. Peut-être plus là, si jamais Sainz a une pénalité supplémentaire. Gasly continue sa saison difficile, encore une fois. Albon, c'est très bien, 12e place. Mick Schumacher, si je ne me trompe pas, commençait 8e.
Oui, il commençait 8e, mais pour une raison quelconque, a eu un arrêt au puits de 10 secondes.
Oui, et puis sur la piste, ça semblait un petit peu aussi laborieux. Ouais. Mais bon, sa qualification était vraiment excellente. Donc, pour le week-end au complet, je lui donnerais peut-être une meilleure note que pour la course. Ensuite, Sébastien Vettel, ça semblait encore une fois très, très laborieux. Des arrêts ici et là qu'on ne savait pas trop où est-ce qu'il se trouvait sur la stratégie. Donc, termine à 36 secondes derrière le leader. Mais bon, si jamais ce n'était pas des voitures de sécurité, c'est peut-être 2-3 tours. Joe Guan Yu, bon, c'est une course difficile pour lui. Ouais. Daniel Ricciardo complètement nulle part.
Ouais.
Vraiment, là. Je pense qu'à un certain moment, c'était le cobaye de Lando. Là. Il allait essayer les pneus, il allait essayer des nouvelles stratégies pour essayer de voir si jamais ça pouvait payer à Lando. Et puis ensuite de ça, là, bon, Nicolas Latifi, le dernier en piste. On va pas s'acharner sur lui, là, déjà que c'est assez utile. Ensuite de ça, Valtteri Bottas, il n'avait pas un beau week-end non plus. Là. Il a été éliminé en Q1. De ne pas terminer la course, je pense pas qu'il était dans une position de marquer des points. Yuki Tsunoda, c'était un peu loufoque, un peu ridicule. Ça a l'air que... Bon, il croyait que sa roue était détachée, donc la voiture pouvait probablement pas continuer. Donc, lui, à ce moment-là, en retournant lentement au puits, semble avoir desserré sa ceinture.
Ouais.
Donc, AlphaTauri, qui voulait qu'il continue, a dû resserrer sa ceinture, de ce que j'ai compris, du moins, de la division. Ensuite de ça, là, un demi-tour après être parti, lui dit non, ça marche pas, donc ça va se stationner, déclenche une voiture de sécurité virtuelle. C'était bizarre, mais
ouais.
En tout cas, on a hâte de voir qu'est-ce que ça va donner.
Ouais, non, ça va être complète. J'ai trouvé ça vraiment bizarre, évidemment, avec le timing. Il y a eu beaucoup de gens qui ont appelé une théorie du complot.
Ouais, ça aidait pas Max à ce moment-là.
Non, c'est ça, mais ça... C'était juste drôle de timing, en fait.
Et toi, si jamais tu avais à donner ton avis sur chacun?
Ben, en fait, moi, je pense ma performance au top, naturellement, je vais la donner à Max Verstappen. Et à Red Bull, en fait, de toute façon, on en reparlera, mais des stratégies assez agressives sur les stratégies. Sinon, mention très honorable à Fernando Alonso de 13... Ben, en fait, à Alpine, dont on va en reparler aussi... Mm-hmm. De 13e à 6e, donc Alonso, il en a encore du jus encore beaucoup, beaucoup de... Il en a encore dans le ventre.
Il se fatigue pas.
Non, c'est ça. Il est loin d'être fatigué. Esteban Ocon aussi, un très bon départ. Lance Stroll, dans les circonstances, est relativement... C'était une bonne performance. Est resté dans le top 10, donc surtout sur un circuit où c'est pas facile de dépasser. Je pense que ça aurait pu être mieux contenu, mais je crois que Aston Martin va accepter cette 10e place. Sinon, contre-performance, Mercedes dans cette décision un peu, on en reparlera aussi de garder Hamilton sur des vieux médiums pour tenir toute la fin de course. Sinon, Carlos Sainz, on en reparlera. Sergio Perez, j'ai trouvé un peu très à l'écart. Évidemment, stratégie différente comparée au Mercedes, mais ça a été un peu difficile. Haas, je m'attendais à mieux d'eux. L'arrêt de Mick Schumacher de 10 secondes, je pense qu'on n'a pas eu de reprise à savoir qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pourquoi il a eu un arrêt aussi long. Kevin Magnussen a ruiné sa course en partant à l'erreur au deuxième tour et heureusement a gardé la voiture intacte en ayant touché le mur au virage 3. Mais je pense que la Haas manquait de rythme. Sébastien Vettel, anonyme jusqu'à ce qu'on le voit sortir des puits devant Hamilton et Perez. Et il s'est pris une pénalité de 5 secondes en plus. Donc,
Là-dessus, on pourra en reparler plus tard, mais je trouve qu'il n'y avait pas grand-chose à faire parce que sinon, en laissant passer un, c'était difficile de le faire de façon sécuritaire sans interrompre aussi la lutte. C'était qui déjà?
Perez et Hamilton, ouais.
Ouais, c'était dur. C'est dur dans un circuit comme ça de faire un laisser-passer, si on veut, interférer avec les deux pilotes en même temps. C'est un circuit qui est étroit puis qu'il n'y a pas vraiment de place de dégagement, non. Mm-hmm. Je donnais le bénéfice du doute, mais c'est une pénalité quand même. Mais je te laisse continuer.
Ouais, exactement. Non, c'est ça. C'était pas mal ça. Ricardo, la stratégie, je l'ai pas compris du tout, en fait. Mais bon, comme tu l'as dit, il fallait qu'il teste pour Lando Norris devant pour voir si les pneus allaient fonctionner. Mais sinon, moment cocasse, bien évidemment, ce sont les pigeons qui ont envahi le circuit pendant la fin de semaine et même durant la course de Formule 2. C'était drôle à voir. Évidemment, lorsqu'un imbécile a lancé le fumigène sur la piste...
Deux imbéciles en qualification hier.
Ouais, exactement. Il y en avait un autre qui en a lancé, mais heureusement sans conséquences directes. Mais il y a eu beaucoup de pigeons sur la piste. Et même durant la course de Formule 2, il y en a un qui s'est approché très, très près des voitures. Et il y a une vidéo qui circule, mais c'est vraiment, vraiment drôle. Et quelque chose aussi que j'ai publié en privé dans notre chat, c'est la Formule 1 qui... En fait, l'équipe de F1 TV qui met en sous-titre lorsqu'on parle de Daniel Ricciardo, Daniel Ricciardo struggling again. Venant du championnat en tant que tel, celui qui s'occupe de la réalisation et tout, je pense que c'est un peu un manque de professionnalisme. Tu sais, je comprends, si c'était par exemple, Sky ou RDS ou TSN qui dit Daniel Ricciardo struggling again, j'ai pas de problème. Mais venant de la Formule 1 en tant que telle.
Donc, tu dis, vu l'attachement de la F1 qui est, si on veut, l'entreprise mère qui contrôle la F1,
ouais.
Tu trouves ça beaucoup plus délicat que si jamais c'était un média indépendant qui faisait un topo là-dessus.
Exactement. Okay. Puis, je pense.
D'accord.
J'ai fait aussi la comparaison avant de commencer l'enregistrement sur Twitter. C'est comme ce qui s'est passé, désolé pour la référence soccer, mais en MLS, il y a quelques années, lorsque la MLS a décidé de rendre, entre guillemets, drôlement hommage au milieu de terrain Nigel de Jong, qui, parce qu'à cause de son caractère de jeu assez rugueux, ben, ils l'ont rendu hommage de manière assez bizarre. Il a dit « Ah, il n'a jamais marqué de but » et tout ça, alors que ce n'était pas son rôle. Donc, si c'était un hommage qui venait d'une équipe et tout ça, ça aurait été correct, mais que ça vient de la Ligue elle-même, c'est là où je pense qu'on dépasse un peu les limites. Et c'est ce qui est un peu arrivé aussi avec dans le cas de Daniel Ricciardo. Et ça, c'était disponible dans c'était durant l'avant-course sur F1 TV Pro.
OK. Non, je l'ai raté, mais bon, c'est de ce que tu décris, effectivement, que c'est un petit peu délicat là, d'étiqueter un pilote, les problèmes de pilote de cette façon. Je peux comprendre.
Ouais.
Définitivement.
Donc, sur ce, on va passer tout de suite à la victoire de Max Verstappen. Max Verstappen, donc, une autre victoire. Il est à, je me souviens plus, 109. 110. 100, ouais. Ah, je pense, je me souviens plus, mais je pense qu'il y a plus de 100 points d'avance sur Charles Leclerc et Sergio Perez en deuxième place.
310 à 201.
Ouais, donc voilà, ça c'est plus de 100 points. Mais force est de constater que Max Verstappen, cette fois-ci, si sa victoire à Zandvoort l'année dernière était un jeu d'enfant, cette année, ça a été un peu plus difficile. Donc, évidemment, un très bon départ de Verstappen. Leclerc n'a pas offert la bataille souhaitée, mais c'est venu de Mercedes. Donc, quand même, Verstappen a bien et Red Bull ont bien réagi.
Ouais, ben, je trouve que, en fait, Mercedes s'était mis dans une position vraiment intéressante en débutant la course sur les médiums. Ça leur donnait beaucoup de flexibilité d'un point de vue stratégique. Si jamais il n'y avait pas eu de voiture de sécurité, je suis pas mal prêt à dire que ça aurait été au moins une Mercedes sur le podium, si pas deux. Le fait que la grande majorité des autres écuries, je crois que dans le fond, t'avais, dans le top 10, tu avais les deux Mercedes et Lando Norris qui étaient partis sur les médiums. Mm-hmm. Corrige-moi si je me trompe, là. Donc, ça leur donnait une bonne flexibilité, mais ça faisait en sorte que du moment que tu as des voitures de sécurité, quand tu es sur les gommes dures, etc., voiture de sécurité virtuelle, ça vient un petit peu déjouer tes plans. Là, que, t'sais, ça permet un changement plus facile, un arrêt au plus facile à tes rivaux qui va un peu tuer ton avantage que tu as en réduisant ton nombre d'arrêts au puits.
Ouais.
Donc ça, c'est sûr que ça n'a pas aidé d'un point de vue là, des Mercedes. Ensuite de ça, bon, la deuxième voiture de sécurité, donc la voiture de sécurité complète, celle-là a complètement tué Lewis Hamilton. On va se le dire, là, c'est... bon, quand tu es sur des médiums, si je me trompe pas, ces médiums avaient déjà un certain bout de fait au moment où c'est arrivé, peut-être une vingtaine de tours, si je me trompe pas. Là, j'ai pas de notes en tant que telle par rapport aux arrêts. Si jamais tu me permets juste d'aller voir ici.
Parce que je me souviens plus c'était à quel tour la voiture de sécurité était rentrée officiellement, mais OK, c'était le 56e tour. Donc, Lewis Hamilton... Et a chaussé les pneus médiums au tour 48.
Ouais. La voiture... Donc, c'est son premier arrêt au puits, des médiums au dur, est au 29e tour. Mm-hmm. Donc, quand tu passes des durs quand tu reviens sur les médiums, après moins de 20 tours sur une gomme, tu viens complètement de tuer ton avantage stratégique. Parce que les médiums, la gomme dure pouvait probablement faire un 50 tours.
Ouais, carrément. Carrément.
Donc, celle-là l'a vraiment ennuyé. Donc, quand tu fais du 48 au 59e, au 57e tour sur une seule gomme, à ce moment-là, là, tu viens un petit peu de perdre ton avantage stratégique. Verstappen, donc, à ce moment-là, c'est toujours. On dit ça assez souvent, malheureusement, mais quand tu as une voiture de sécurité, la dernière place que tu vas être, c'est premier.
Mm-hmm.
Parce que tout ce que l'autre derrière toi a à faire, c'est de faire l'inverse.
Exact.
Et... donc...
Et surtout aussi que, bon, Verstappen, lui, c'était des pneus... quand il s'est arrêté, ce sont des pneus tendres, usés. Donc, lui, il avait... Red Bull les a appelés pour leur... a appelé Verstappen pour dire, bon, on rentre, on va essayer de se couvrir le plus possible pour tenter une attaque sur Hamilton parce que si jamais ou Russell dans l'autre cas, ben au moins ils ont été capables de se donner une chance. Ils ont été, et comme souvent, assez agressifs sur les stratégies, et ça a fonctionné.
Donc là, j'ai le tableau des arrêts au puits devant les yeux. Donc Hamilton a commencé sur les médiums, ouais. Donc autour 29 est allé sur la gomme dure. Mmh. Ensuite de ça, est allé sur la gomme médium. Donc, n'a jamais vraiment été... Du moment où que ça a commencé à... Les voitures de sécurité ont commencé à impacter la course, ça n'a jamais été dans la poche pour Lewis. Tandis que Verstappen, lui, la voiture de sécurité est venue au moment parfait. Lui, il venait de faire 5-10 tours. Je sais pas, 7-8 tours sur les gommes dures.
Ouais.
Parfait timing, lui revient sur les gommes tendres, puis...
C'est exactement. Même chose pour Charles Leclerc. Et d'ailleurs, je dois dire, pendant qu'on y est, bravo à George Russell d'avoir allé à la dernière minute cet arrêt au puits. Et c'est peut-être là où ça, disons, contrecarré les plans de Hamilton. C'est que Russell a pris la décision par lui-même de dernière minute. Ce que... Oui. Probablement Mercedes aurait dû faire, mais je pense qu'il était dans une situation un peu plus délicate avec Hamilton dans ce cas-là, mais ça aurait pu être, on aurait pu avoir les deux Mercedes sur le podium parce que ils ont réussi à couvrir Charles Leclerc dans les circonstances.
Charles Leclerc a eu essentiellement la même stratégie que Max Verstappen. Donc commencer sur les mêmes pneus, à peu près à la même place. Changer pour les gommes médiums. Ensuite de ça, 45e tour environ, Leclerc a mis les gommes dures, puis en même temps que Verstappen a remis les gommes tendres. Donc, d'un point de vue stratégique, Ferrari n'avait pas grand-chose à se reprocher sur Leclerc. Ouais. Je dis seulement sur Leclerc.
Ouais.
Vraiment, là, je pense que si jamais on regarde la différence entre les deux, c'était vraiment une différence de voiture et de pilotage là, entre Verstappen et entre Max et Charles. Aujourd'hui, dommage parce que plusieurs croyaient que vu la nature, la configuration de circuit, c'est peut-être plus à l'avantage de Ferrari. Mais bon, en ce moment, le coup de volant de Max Verstappen vaut plus que sa voiture, on dirait, parce que Sergio Perez n'est pas dans une meilleure situation, si on veut. Là. Ça semble aussi avoir ses propres problèmes. Mais bon, ce championnat-là est en train de se terminer là, assez rapidement, si on veut, cette course au titre.
Ah oui, carrément. Là. Je pense que maintenant, la question qu'il faut se poser maintenant, c'est à quel moment Max Verstappen va obtenir son titre. On a beaucoup parlé de Japon. Moi, j'ai dit Singapour à cause de Ferrari en tant que tel. Donc, je pense que rendu là, ce n'est qu'une question de temps. Surtout qu'il nous reste un sprint où il y a des points supplémentaires. Donc, c'est là où Verstappen, la victoire de Verstappen avec le meilleur tour et la troisième place de Charles Leclerc ne fait qu'accentuer en fait le moment où le Néerlandais va pouvoir avoir les deux mains sur la coupe.
C'est là qu'on se dit, écoute, Max Verstappen, en date d'aujourd'hui, pourrait partir en vacances pour un mois, revenir et encore être en tête du championnat.
Exactement. Il pourrait carrément...
Rater un mois.
Un mois carrément, puis il sera quand même champion du monde. Donc, c'est fou à quel point Verstappen a été complètement excellent. Très, 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 très peu d'erreurs. Et ça s'est vu encore aujourd'hui... Il est devenu vraiment mature dans sa conduite. Vraiment, je pense que là, on est proche de dire que c'est un double champion du monde.
Ouais. Donc, celui-là, définitivement, ne fera pas autant de controverses que le premier.
Dieu merci.
Celui-là va être un peu comme... va presque être... on va pouvoir dire, ça va être tellement dominant que ça ne sera pas valorisant, ouais, d'une certaine façon. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est parce que quand ton principal adversaire se fait complètement saboter, mm-hmm, une course sur trois par sa propre écurie, ou encore fait des erreurs complètement inopportunes, comme Leclerc fait malheureusement trop souvent.
Ouais.
Ensuite de ça, ton deuxième rival est ton propre coéquipier, et on voit très très bien qu'il y a une montagne de différence en termes de talent brut entre les deux.
Mm-hmm.
Donc, puis ensuite de ça, l'autre, le seul qui rivalise directement avec ton talent brut, se retrouve dans une voiture qui est peut-être une classe et demie en dessous, donc Lewis Hamilton et George Russell. On s'entend que les deux voitures, les Red Bull et les Mercedes, ont peut-être une seconde de différence.
Ouais.
Sinon près d'une seconde. Donc, je trouve que c'est difficile de voir comment est-ce que ce championnat-là peut basculer. Encore une fois, comme je disais, il faudrait que Max soit carrément invalidé pour un mois pour qu'on revienne dans une course légitime.
Exactement. Et je ne pense pas, par contre, que ça pourra arriver, même en ayant quitté, même en quittant pour un mois, parce qu'il va revenir en grande forme en plus. Donc, je pense que le championnat est pas mal plié. Ouais. Parlons de leurs rivaux directs. Je vais dire Ferrari parce que on ne sait pas, parce que Mercedes, malgré l'erreur stratégique sur Hamilton, a quand même pris 11 points à Ferrari. Donc il y a un écart de 30 points qui les sépare, ce qui est assez fou. Mais tout ça quand même, bon, Leclerc finit troisième dans les circonstances. C'est correct, parce que je pense pas que la Ferrari avait le rythme, mais c'est de l'autre côté du garage où ça s'est compliqué avec Carlos Sainz, un arrêt désastreux où l'écurie n'était pas prête. Le pistolet à écrou qui est resté
dans le chemin pour la sortie des puits de Red Bull.
On va mettre ça sur le doute, mais c'est un imbroglio concernant le drapeau jaune, le dépassement de Sainz sur Ocon alors que Bottas était arrêté. On va dire que il y a pas d'enquête pour le moment. Ça peut changer, ouais, évidemment là, mais on va dire qu'il y a pas d'enquête. Et là, il y a eu cette sortie au plus dangereuse où Sainz a eu une pénalité de 5 secondes. Donc, la raison pour laquelle je dis que j'ai commencé à avoir des doutes sur le rival direct, c'est parce que, bon, en termes de championnat, Mercedes commence à se rattraper, à rattraper dangereusement Ferrari.
Ouais, ben en fait, je pense que Red Bull n'a plus de rival au championnat.
Mm-hmm.
Le Red Bull a maintenant un rival par course.
Ouais.
C'est-à-dire que il n'y a plus aucune des deux écuries, là, Ferrari et Mercedes, d'après moi, là, c'est à moins que Sergio Perez tombe d'une falaise et puis ne ramasse presque plus de points d'ici la fin de la saison. Si jamais il continue à ramasser des points là, de façon constante, même si jamais ce n'est pas des podiums, etc., ça devrait être assez pour que Red Bull termine au sommet.
Ouais.
Ferrari est à 376 points, donc ce qui est à peu près un retard de quoi? C'est 135 points de Red Bull. Et Mercedes est à 356, donc 165 points.
Mm-hmm.
C'est plusieurs courses que Red Bull ne devrait pas ramasser de points pour que ces deux écuries-là, qui entre elles vont même s'arracher des points, mm-hmm, ça serait plusieurs courses avant qu'une des deux ne rattrape Red Bull. Donc je pense que ça, de ce côté-là, les deux championnats sont pas mal dans la poche. Mm-hmm. Encore une fois, bon... il y a un paquet de choses qui pourraient arriver, là, donc que ce soit un des pilotes qui attrape la COVID, quoi que ce soit, on espère que ça n'arrive pas. Mais bon, c'est jamais fini en F1. On l'a vu plusieurs fois. Mm-hmm. Donc, Ferrari doit vraiment regarder dans son rétroviseur parce que Mercedes s'en vient. Mercedes a eu un début très, très difficile, mais là, maintenant, c'est des podiums réguliers. Ils font pas vraiment beaucoup d'erreurs techniques. T'sais, on va dire que Red Bull, ben, technique et stratégique, on va dire que Hamilton, oui, c'était une erreur, mais tu sais, c'était une erreur qui était presque inévitable. Parce que, encore une fois, ça arrive fréquemment à F1. Ça arrive fréquemment quand F1, quand t'es premier, tu fais la mauvaise décision quand il est question d'un arrêt au puits. Donc, ouais. C'est vraiment pas la première fois qu'on voit ça arriver, puis tu sais, ça va encore continuer à arriver. Il y a pas de recette magique quand t'as une voiture de sécurité puis que t'es premier, là.
Exact.
Donc, tu sais, je comprends la frustration d'Hamilton, mais tu sais, c'est arrivé à Leclerc à Silverstone, c'est arrivé à Hamilton encore une fois à Abu Dhabi l'an dernier, ça arrive tout le temps. C'est un problème de la course qui est juste par défaut de la façon que les courses se déroulent vont toujours arriver.
Exact.
Donc, c'est ça. Là, je vois vraiment mal comment Ferrari et Mercedes pourraient aller rejoindre là, Red Bull au sommet du classement. Il reste quoi? Il reste 9 courses?
Il reste Italie, Singapour, Japon, États-Unis, Mexique, Brésil. Il en reste 7.
Ouais,
7 plus un sprint table au Brésil. Où il y a des points, mais évidemment... question stratégie, ben, c'est juste flat out. Donc, ouais. C'est ça. Je pense que c'est évidemment, les erreurs stratégiques vont coûter cher à Ferrari. Mercedes, je pense que aujourd'hui, je pense Zandvoort et Singapour sont peut-être les meilleures chances où Mercedes peut se battre carrément pour la victoire. Je pense que Monza, la semaine prochaine, pour Ferrari, avec la vitesse de pointe de Red Bull, ça risque d'être difficile. Surtout que Ferrari roule à la maison. Donc, ça va être énormément compliqué. Et je crois qu'on se basait vraiment sur Zandvoort pour obtenir le meilleur résultat possible. Ce qui n'a pas été le cas. Je crois que Leclerc a été largué quand même. Sainz, ça a été, comme on l'a dit, un désastre classe. Complet.
Oui.
Donc.
On ne sait même pas si jamais va. Encore une fois, comme on dit en ce moment, il est 8e, là, mais ça pourrait encore continuer de s'empirer si jamais il y a une révision par rapport au dépassement sous les drapeaux jaunes ou encore si jamais une pénalité quelconque au pilote au lieu de l'écurie par rapport au problème là, avec l'outil, là, le wheel gun.
Ouais.
Donc, c'est catastrophique là, un peu pour Sainz. C'est dommage parce que sur la piste, il faisait bien.
Ouais.
Il faisait pas extraordinaire, il faisait bien.
Ouais. En fin de course, peut-être, mais après c'est un imbroglio dans les puits pour la première fois. Je regardais un peu, puis je crois qu'il perdait du temps sur Leclerc. Donc, je pense traiter niveau... Niveau rythme de course, dans la première partie, c'était pas fameux.
Ouais.
Mais dans la deuxième, oui, c'est vrai, il s'est réveillé. Donc, c'était vraiment une course en 2 ou 3 temps pour Carlos Sainz.
Ouais.
Mais vraiment, je crois évidemment, ces problèmes au plus ont impacté sa course.
Ouais, ça, c'est indéniable. Puis, si jamais on regarde un petit peu là, plus loin que ça, ben, tu sais. L'affaire, c'est que malgré le nombre de courses qui restent, tu as toujours l'impression que même quand ça va bien pour Ferrari, il va se passer quelque chose.
Ouais. Exact.
C'est dommage parce que la voiture, probablement, est la meilleure qu'elle a été depuis quoi? Bon.
5-6 ans.
Disons, là, voiture, outre le moteur. Sur les stéroïdes qu'on a eu il y a 4 ans. Là.
Ouais.
Mais d'un point de vue constant, là, que Ferrari a une voiture qui est probablement la meilleure sur la grille, c'est peut-être depuis une quinzaine d'années qu'on n'a pas vu ça, que la voiture est aussi bonne.
Ouais.
Puis ils réussissent à saboter ça course après course. Donc c'est dommage. Puis faut vraiment qu'il y ait, selon moi, un remaniement qui se fasse chez Ferrari là, durant l'entre-saison. Parce qu'en ce moment, là, peu importe la voiture qu'ils vont mettre sur la piste, je vois mal comment ils peuvent battre une machine aussi bien rodée que Red Bull.
Exactement. Donc, j'ai hâte de voir Monza, mais surtout Singapour aussi, là, parce que ça va être un niveau, ça va être un circuit un peu comme Monaco, un level, si je peux dire.
Ouais.
Si j'utilise le bon terme.
Un égaliseur, tu veux dire.
Un égaliseur, okay. C'est ça. Merci beaucoup. C'est le terme que je cherchais. Sinon, on va parler d'Alpine parce que ça a été une belle course. Outre la situation externe concernant Oscar Piastri et le CRB, en piste, ça s'est bien passé après une qualification un peu plus assez difficile pour Alpine, avec Ocon et Alonso partant respectivement 12e et 13e. Et quand on regarde le classement, surtout Alonso qui finit 6e et Esteban Ocon 9e, Ocon a connu un très bon départ. Donc, il s'est déjà retrouvé 9e après le premier tour. Fernando Alonso, chapeau en fait à Alpine pour cette décision de passer aux pneus durs, parce que alors que plusieurs s'étaient arrêtés assez tôt pour faire tendre médium, Alonso a fait tendre dur, ce qui est une stratégie assez intéressante.
Ouais, en fait, les deux Alpines ont été les seuls qui ont opté cette stratégie, donc tendre dur. Et ensuite de ça, bon, lorsqu'il y a eu les interruptions là, en dernier tiers de course, eux se sont remis sur la gomme tendre. Mm-hmm. Ocon, après la voiture de sécurité complète, et puis si je me trompe pas, Alonso, c'était durant la voiture de sécurité virtuelle, donc peut-être un 5-6 tours avant. Mm-hmm. Donc lui quand même a fait un 24 tours sur les gommes tendres là. Ça devait commencer à glisser à la fin pour Alonso, mm-hmm. mais très très bien tenu son bout. Il a terminé quoi, il y avait Norris qui le suivait là, qui pendant le dernier rack de la course, si on veut là, ouais. Qui était souvent dans son DRS. Il y a un moment donné où il avait réussi à se mettre à peu près une seconde et demie, deux secondes. Donc, il s'était débarrassé de Norris dans le DRS. Puis, ensuite de ça, Perez, qui, lors de sa bataille avec Sainz, s'était retrouvé là, trois roues dans le gravier.
Ouais.
Et puis, lui, il est retombé directement devant Alonso. Mm-hmm. Donc, ça l'a ralenti et Norris le rattrapait à ce moment-là.
Ouais.
Donc, jusqu'à la fin de la course, il était dans son DRS. Donc, c'est ça, là, d'un point de vue technique, là, les deux pilotes alpines ont très, très bien fait pour soutirer le meilleur de leur gomme. Je pense que définitivement qu'un autre arrêt les aurait probablement les deux sortis du top 10, tandis que c'est leur stratégie a seulement deux arrêts. Je crois que c'est les deux seuls qui ont terminé la course de cette façon-là, avec deux arrêts.
Ouais, je vois, donc, je regarde. Alonso a fait deux arrêts pour Ocon.
Ouais. Je regarde là, le tableau là, de F1 TV, là, c'est tout le monde a fait au moins trois arrêts sauf les deux Alpines, mais dans le sens ceux qui ont terminé.
C'est ça, donc vraiment c'est une masterclass de la part d'Alpine qui quand même se permet de solidifier leur quatrième place contre McLaren.
Oui.
Vraiment, ça a été une très belle performance en course de la part des deux pilotes. Donc, je dois dire vraiment chapeau à l'écurie française qui peut quitter Zandvoort avec au moins avec le gros sourire après un début de semaine, de fin de semaine très compliqué, autant en piste qu'hors piste. Mais inversement, François, McLaren, bon, Norris marque des points. Donc, une septième place qui est quand même pas mal dans les circonstances. Daniel Ricciardo, parce que je sais que je vais en parler en rapidement. Tu sais, on parle beaucoup de Ferrari qui a beaucoup de problèmes stratégiques. Et Mercedes aujourd'hui aussi, parce que je la trouve trop conservatrice. Mais McLaren, cette année, niveau stratégie, c'est pas fameux. Et puis ça s'est vu avec Daniel Ricciardo. Qu'est-ce que tu en penses?
Comme tu disais plus tôt, j'ai l'impression que Daniel Ricciardo, du moment où sa course est pas mal hors de... que ses espoirs sont terminés, devient un peu le cobaye de Lando Norris.
Ouais.
Donc, on va aller essayer de voir les pneus, comment ça se comporte, parce que, tu sais, oui, c'est une chose de voir comment les autres écuries réagissent aux pneus. Tu sais, tu peux regarder comment, bon, admettons, Haas ou Aston Martin, par exemple, réagit aux pneus durs. Tu sais, regarder les trois premières courses après la sortie, où est-ce que ça se trouve. Mm-hmm. Mais chaque voiture est tellement différente, tant par sa conception que par ses réglages, que il y a jamais de meilleure façon que de savoir comment ça se comporte sur ta voiture.
Ouais.
T'sais, on peut toujours ramener le point de la Hongrie où que, bon, les Alpine avaient essayé la gomme dure, ça marchait pas, Ferrari l'a fait pareil, puis tout le monde disait, ben oui, mais Alpine, ça marchait pas, ils l'ont même dit à la radio, pourquoi Ferrari l'a fait? Ça aurait pu marcher avec la Ferrari.
Ouais.
Ça a pas marché, mais ça l'aurait pu, t'sais. Chaque voiture est très, 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 très différente. Tu regardes, là, cette année, chaque voiture, d'un point de vue physique, visuel, sont tellement différentes que j'ai pas de misère à croire qu'un pneu peut très bien marcher pour une puis pas pour l'autre.
Ouais, exactement.
Mais maintenant, pour ce qui est de Daniel Ricciardo, j'ai même plus vraiment de jugement par rapport à ses stratégies parce que c'est... Il se retrouve toujours dans le trafic dès qu'il sort. Mm-hmm. Il se trouve tout le temps dans les 12 à 18, si on veut. Surtout des courses comme ça, là, où tu te retrouves dans le trafic, donc c'est très, très difficile de faire valoir ta stratégie. Puis à chaque fois que tu penses que tu as le dessus sur quelqu'un d'autre, tu te fais undercut, overcut.
Ouais.
C'est le jugement est très compliqué. Lando Norris, on l'a vu à quelques reprises dans Montréal où que les arrêts au puits lui ont coûté cher.
Oui.
Bon, Ferrari n'est pas le seul qui oublie de sortir ses pneus des fois.
c'est bel et bien vrai.
Donc, moi, j'ai l'impression que c'est dur de voir Lando Norris avec plus de points cette année parce qu'honnêtement, il n'a pas vraiment fait d'erreur. Non. Mais en même temps, tu te dis, avec un petit avantage stratégique, est-ce qu'il y aurait peut-être 100 points? Est-ce qu'il y en aurait un peu plus qu'en ce moment? C'est quand même une question qui se pose, mais j'ai l'impression que du moment que Lando Norris termine dans le top 6, top 7, il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à l'écurie parce que tu as vraiment, t'as la classe A, mm-hmm. selon moi, en ce moment, qui est Red Bull Ferrari. Ouais. Eux autres vont pas mal tout le temps terminer top 5, si on veut.
Ouais.
Des fois, t'as des... Ben, sauf aujourd'hui avec Sainz, là, à cause des pénalités, etc. Mais, tu sais, sur la piste, c'était top 5, tu sais.
Ouais.
Ensuite de ça, t'as une des deux Mercedes qui va se glisser là-dedans. Sinon, des fois, les deux.
Mm-hmm.
Puis, ensuite de ça, tu te bats pour le reste.
C'est ça.
T'sais, on voyait, pendant les essais libres, il y avait un tableau qui disait les performances de voiture, si on veut, avec comme les Ferrari Red Bull qui étaient à peu près à 15 centièmes l'une de l'autre en moyenne.
Mm-hmm.
Ensuite de ça, Mercedes à 7 dixièmes derrière les deux. Puis ensuite de ça, tu as McLaren qui est à une seconde derrière.
Wow.
Donc, tu as vraiment un rang A, rang B, rang C et les autres.
C'est ça.
Et McLaren, Alpine, etc. se trouvent dans le haut du rang C. Donc, c'est dur de compétitionner avec les autres. T'sais, chaque fois que tu vas aller chercher un top 5, quand t'es Alpine, quand t'es McLaren, c'est une victoire technique, si on veut. Parce que tu peux pas vraiment aller se battre avec les autres quand ils font pas d'erreur.
Exact. Donc, non, c'est ça. C'est on est vraiment dans une classe à part cette saison, ben, depuis assez longtemps quand même. Alors... je pense que au moins c'est ça qu'on remarque, mais j'espère vraiment que McLaren va pouvoir revenir au haut du sommet parce que je pense qu'Alpine a fait vraiment du très bon travail actuellement.
Ouais. Donc, les deux pilotes font le travail chez Alpine, c'est ça qui fait la différence en ce moment.
C'est ça exactement. Donc on a fini. Je pense qu'à moins qu'on ait des nouvelles de dernière minute. On a conclu le volet Formule 1. On va passer tout de suite dans les catégories juniors, Formule 2 et Formule 3. Je vais commencer par la Formule 3 parce que ça a été, disons, je veux rendre hommage à Juan Manuel Correa qui a obtenu son premier podium en Formule 3 avec une deuxième place lors de la course sprint qui a eu lieu samedi. Donc, c'est un premier podium et surtout aussi, je pense que ça devait faire depuis sa saison 2019 en Formule 2 ou qui s'est terminée abruptement après les événements de sport 2019. Donc, une deuxième place pour Correa. Victoire de Caio Collet qui remporte sa deuxième victoire de la saison. Zach O'Sullivan a complété le podium. Et dans la course principale, ben Zane Maloney sur Trident a gagné devant Victor Martins et Franco Colapinto. Au classement des pilotes, Martins est encore premier avec 126 devant Isaac Hadjar à 121. Roman Stanek est troisième avec 109 points. Oli Berman, quatrième avec 106 et Zane Maloney, cinquième. Arthur Leclerc n'a pas marqué de points. Ce qui est dommage parce que ça permet à surtout Maloney de le dépasser en fait. Leclerc chute sixième la prochaine épreuve, c'est la semaine prochaine à Monza qui est d'ailleurs la dernière course de la saison de Formule 3. Donc le titre est encore en jeu. Donc je vous rappelle, si jamais vous avez l'opportunité, allez voir les courses sur F1 TV Pro. Si vous êtes en mesure de regarder ça, parce que ce sont les futures vedettes de Formule 2 et de Formule 1 aussi.
Je crois que c'est jusqu'à Arthur Leclerc, jusqu'au sixième rang, ce sont ceux qui ont encore mathématiquement une chance de remporter le titre.
Je dirais aussi Jack Crawford et Caio Collet techniquement.
C'est combien que de points disponibles par un week-end?
Pour le sprint, c'est de 10 jusqu'à 1 avec un point pour le meilleur tour. Je crois qu'il y a aussi je me souviens plus si c'est 2 ou 3 points pour la pole position. Et dans la course, principale, c'est en fonction du, top 10, comme on retrouve en Formule 1.
11 plus 28, Jack Crawford est à 90 points. Ouais, il y a encore une chance mathématique, ouais, t'as raison. C'est 39 points par week-end, donc il faudrait qu'il y ait une fin de semaine parfaite.
C'est ça. Il faudrait que tout le monde lui abandonne, qu'il fasse cavalier seul à Monza. Ce qui est mathématiquement possible. Donc, c'est ça. C'est serré en Formule 3, mais ça ne l'est presque plus. Ça ne l'est plus en Formule 2 parce que Filipe Drugovich, s'est emparé de titre. Je pense qu'il va le gagner à Monza, c'est sûr. Il a gagné la course principale en Formule 2 dans une course complètement folle. Parce que Logan Sargeant a eu un accident après 44 secondes et s'est retrouvé dans le bac à gravier au départ. Ensuite, contact avec une autre voiture. Ensuite, il y a eu une relance dans la voiture de sécurité complètement bizarre où Jack Doohan se fait taper par derrière. Et en plus, Clément Novalak, lui aussi, récolte des dommages. Et on a Roy Nissany qui a été suspendu parce qu'il a obtenu des points de pénalité et un total de 13 points. Donc, il est exclu du Grand Prix d'Italie. Donc, top 10 de la course principale. Drugovich devant Richard Verschoor et Ayumu Iwasa. Surveillez bien ce pilote. Dennis Hauger, quatrième. Enzo Fittipaldi, cinquième. Amaury Cordell inscrit ses premiers points en Formule 2. Yuri Vips termine 7e. David Beckman, 8e. Holly Caldwell, 9e, et Théo Pourchaire, qui était jusqu'à preuve du contraire le rival direct de Filipe Drugovich, termine 10e. Et dans la course sprint, Marcus Armstrong a gagné devant Clément Novalak et Dennis Hager. Donc c'était le top 8 pour le sprint. Et au classement des pilotes, Drugovich mène avec 233 points devant Théo Pourchaire à 164 et Logan Sargeant à 130. Jack Doohan est quatrième avec 121 et Liam Lawson est cinquième avec 119 points. Et il reste deux manches. Donc Monza et ensuite Abu Dhabi en fin de saison. Donc Drugovich est parti comme Verstappen pour le titre.
Oui.
Mais ce qu'il faut surveiller, en fait, c'est vraiment la Formule 3. La semaine prochaine, dans le cadre du Grand Prix d'Italie qui aura lieu à Monza. Et c'est d'ailleurs notre prochain rendez-vous pour l'émission d'après-course du bulletin GP. Ce sera disponible aussi ce dimanche ou lundi, s'il n'y a pas de problème technique. Vous pouvez nous rejoindre sur bulletingp.com. D'ailleurs, il y a un article qui va sortir ce lundi sur, mon point de vue de cette fin de saga concernant Oscar Piastri. Dieu merci, c'est terminé. Donc, bulletingp.com, l'article va apparaître dès demain. Sinon, il y a toujours le groupe Facebook La Monoplace dans lequel François et membre du et un modérateur du groupe aussi. Puis François, il y a aussi une ligue qui débute bientôt, hein.
Ouais, donc en fait l'ancienne Ligue F1 Québec qui est maintenant nommée la CSC, donc le championnat de sim racing canadien. On a changé la formule puisqu'en fait le groupe F1 Québec a changé de nom, donc on a décidé aussi d'y aller avec notre propre nom. C'est ça, là, on commence vers la mi-septembre avec notre merveilleux descripteur Abdou.
Je le connais pas.
je peux te le présenter, je suis sûr que vous entendriez bien. C'est ça, notre objectif. On a changé d'horaire cette saison, donc on va courser les jeudis. Donc notre première course va être jeudi le 15 septembre. On a un calendrier de 12 courses seulement. Mm-hmm. Alors, je vous invite là à nous suivre sur notre chaîne Twitch qui est présentement là toujours la Ligue F1 Québec. Donc Abdou là, si jamais tu peux la partager sur le site web, tu pourrais faire ça le lien.
Oui.
Parfait. Donc c'est ça là, on va regarder pour changer évidemment le nom de la chaîne, mais sinon là on va garder ça. C'est ça. On a hâte. Le jeu nous permet un petit peu plus de flexibilité avec l'accès multiplateforme. Donc, on a hâte de voir là, comment est-ce qu'on va pouvoir rendre notre ligue aussi excitante, sinon plus que la saison dernière.
Wow! J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte d'y être. Si la première saison était excellente, je pense que la deuxième devrait l'être, surtout avec le crossplay de F1 2022.
Ouais, donc on est en pleine préparation là-dessus. Là, cette semaine, on met les derniers détails. J'ai maintenant une très, très bonne équipe avec moi pour gérer cette ligue-là. Donc, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner.
Oh, et j'ai vraiment hâte d'y... J'ai vraiment hâte d'y...
Hâte d'y être.
Voilà. j'ai trébuche sur mes mots comme Ferrari trébuche sur ses stratégies.
Ouch.
Ouais. Donc, Ouch. Et je ne vais pas trébucher là-dessus. On est disponible sur Facebook, Twitter et Instagram @lebulletingp et évidemment le groupe Facebook La Monoplace. Sinon, on est disponible sur toutes vos plateformes de podcasts préférées, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify et autres. François Carignan, un énorme merci d'avoir été là.
Je te remercie pour l'invitation.
Ah, c'est toujours apprécié. C'est sûr que tu vas revenir. J'ai beaucoup aimé tes analyses en plus, donc c'est certain que je te réinvite.
Anytime, tu me fais signe.
Super. Alors, mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. On se retrouve jeudi pour un autre épisode, le numéro 120 de la balado hebdomadaire, et la semaine prochaine pour l'après-course du Grand Prix d'Italie. Salut tout le monde!